Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h sur Radio Kapi, la radio de la paix. Place maintenant à votre rendez-vous d'information, un tour complet de l'actualité ici et ailleurs. Bienvenue dans le journal des 18h présenté par Gisèle Cage. Forum provincial à Beni, une mobilisation inédite pour définir une stratégie commune face au péril ADF dans l'est de la RDC. Une rencontre inédite où forces congolaises et ougandaises, partenaires internationaux, MONUSCO et société civile tentent d'élaborer des solutions concrètes pour en finir avec une décennie de violence et redonner espoir aux communautés. Sankuru Lusambo baisse le rideau. La course effrénée au gouvernorat s'ouvre avec 11 candidats en ligne de départ. Clôture à 16h précise. 5 femmes se positionnent dans une compétition politique qui s'annonce électrique et pleine de rebondissements. Fizi, un territoire sous pression, l'environnement paye le prix des groupes armés, déforestation galopante, braconnage, exploitation anarchique des ressources. L'administrateur du territoire, Sami Kalonji Badibanga, alerte sur une crise écologique majeure qui menace les forêts, la faune et même la survie des communautés locales. Il est l'invité de Jean Kassami. Sécurité, le fait, les enjeux et surtout ce qui pourrait basculer pour des milliers de vies. À Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, un forum provincial déterminant sur la menace ADF s'est ouvert ce lundi matin. Forces de sécurité congolaises et ougandaises, MONUSCO, société civile, tous réunis autour d'une question brûlante. Comment élaborer enfin des stratégies capables de neutraliser un mouvement rebelle qui endeuille la région depuis 2013. Les attentes sont énormes et le regard reste suspendu à l'issue de cette rencontre cruciale. Direction maintenant le terrain avec un reportage de Marc Marofimbo qui nous éclaire davantage sur ce qui se joue en ce moment.
Nous ne lâcherons rien. C'est par ces mots que le gouverneur du Nord Kivu a conclu son allocution ce lundi à l'ouverture du forum de la paix à Beni. Pour le général Evariste Kakule Somo, initiateur de ce forum, la population de cette partie du territoire congolais mérite de vivre en paix.
Les ADF continuent de tuer. Des femmes, des enfants, des personnes de troisième âge, nos soldats, tombent sous le drapeau. Des casques bleus de l'ONU ont versé leur sang sur ces terres. Tout ceci à cause des ADF. Habitants du Nord Kivu, je veux vous le dire simplement. Nous ne lâcherons rien.
Pour le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bouji Sangara, qui a ouvert les travaux, ce forum est considéré comme un élan de recherche des solutions durables. De son côté, la chef de la police de la MONUSCO, représentante spéciale adjointe intérimaire du secrétaire général des Nations Unies, chargée des opérations, a réitéré l'engagement de la mission des Nations Unies aux côtés des autorités congolaises pour éradiquer ces phénomènes pour une meilleure protection des civils. Mamouna Oedraogo.
La MONUSCO reste pleinement engagée aux côtés du gouvernement congolais. Nous continuons à travailler en coordination avec les FADC, la PNC et l'ensemble des services de sécurité afin de vaincre cet ennemi commun.
Ce forum de 3 jours va se clôturer ce mercredi. Marc Marofimbo, Beni, Radio Kapi.
Et justement, dans le sillage de cette rencontre sous haute tension à Beni, où se tient donc pour la toute première fois ce forum provincial consacré à la problématique des ADF, les attentes des populations sont immenses. Dans une région meurtrie depuis plus d'une décennie, chacun espère que ces assises déboucheront enfin sur des stratégies concrètes et durables pour neutraliser définitivement ce groupe armé allié à l'État islamique et toujours actif au Nord Kivu comme en Ituri. Les espoirs, les craintes et les enjeux de cette démarche inédite ont continué avec un reportage qui vous plonge directement dans l'action. Il est signé Martial Papimukeba.
Parmi les participants à ces forums figurent des femmes tuées, enlevées ou réduites à l'état d'esclavage sexuel dans les campements de ces rebelles. Les femmes sont considérées comme les premières victimes des ADF. Justine Massika, activiste des droits des femmes au Nord Kivu et participante au forum, souhaite que ces assises aboutissent à une prise en compte de la dimension communautaire dans la lutte contre les ADF.
Les armes ont des limites. Les armes ne sont pas une solution. puisque les opérations étaient des opérations armées. Mais pour chercher la vraie paix, il faut une paix communautaire. Il faut que la communauté soit vraiment impliquée dans la recherche de la paix, puisque c'est cette communauté qui souffre.
De son côté, John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, espère l'adoption d'une stratégie commune et inclusive pour mettre fin à l'activisme des ADF.
Les communautés vont sensibiliser leurs membres de ne pas continuer à collaborer avec les ADF. Notre attente est que ces ADF doivent être éradiqués. Ça fait maintenant plus d'une décennie qu'ils sont en train de tuer sauvagement la population.
Les travaux du forum se clôturent ce mercredi. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
En Ituri, la pression ne faiblit pas. Les attaques attribuées aux rebelles ADF continuent de semer la peur et de bousculer le quotidien. Villages désertés, champs abandonnés, commerce au ralenti, la machine économique s'essouffle et déjà la menace d'une pénurie alimentaire plane sur la région. Que se passe-t-il sur le terrain? Élément de réponse avec Jean-Claude Lokidile.
Les attaques répétées des rebelles des ADF, notamment dans la zone de Banda Vilemba, paralysent l'agriculture et les petits commerces. D'après des sources locales, plusieurs paysans ont abandonné leurs champs, comme le confirme également cet habitant joué au téléphone.
Les gens ne produisent plus assez de haricots à cause de l'insécurité. Malgré cela, les gens s'efforcent de récolter tant soit peu. Et même si on arrive à ramener cela à la maison ou trouver des acheteurs.
La dernière attaque remonte à samedi dernier au village de Boutani où 3 motos ont été incendiées et les habitants pris pour cible. Une situation qui décourage également les petits commerçants. Christophe Mianderou, un activiste des droits de l'homme dans la zone, alerte aussi les conséquences économiques.
Les boutiques et kiosques ne fonctionnent plus, on peut ouvrir toute une journée, mais trouver celui qui pourrait acheter ne fût-ce que quelques articles, c'est un peu difficile. Ceux-là qui avaient déjà flagellé leurs haricots, pour le moment il n'y a pas le marché, tout le monde craint de mettre ton argent dans le commerce parce qu'on ne saura pas quand l'ennemi pourrait arriver.
Face à cette insécurité persistante, les habitants appellent les autorités à renforcer urgentement les mesures de protection afin de relancer les activités agricole et commerciale. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Nouvelle journée sous tension à Massissi, dans le Nord Kivu. Les affrontements entre l'AFC M23 et une coalition des miliciens Wazalendo ont de nouveau éclaté ce lundi matin. Des combats particulièrement intenses ont été signalés autour des Kawele et Mouloulou dans le groupement des Kibabi, chefferie des Baoundé, à 10 kilomètres seulement de la cité minière de Rubaya. Et cette escalade n'est pas nouvelle. C'est là fait maintenant plus de 5 jours que les hostilités secouent la région, poussant des familles entières à fuir vers l'est du territoire pour échapper aux violences. Les détails avec John Chibwabwa.
Selon des sources issues de la notabilité du territoire de Massissi, les combats ont repris à l'aube autour du village de Kawere, non loin du centre des Kibabi. Elle indique qu'à l'issue des affrontements particulièrement intenses depuis vendredi, le milicien Wazalendo, parmi lequel des combattants Pareko, Maimai Lamuka et Raia Mutomoki, ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs villages situés sur l'axe Katoi-Kibabi-Rubaya. Près de 8 villages ou positions auparavant tenues par l'AFC M23 seraient ainsi passés sous leur contrôle. Sur l'axe Ngungu, ces mêmes combattants Wazalendo avaient déjà regagné le village de Nyakigano et Musherebe situé à proximité immédiate de cette agglomération. Cependant, depuis dimanche, des sources civiles locales font état d'une contre-offensive de l'AFC M23. Jusqu'à tard dans la soirée, des affrontements étaient signalés dans le village de Luke à moins de 50 km de Massissi centre. Et ce lundi matin, le combat s'est concentré de nouveau autour de la colline de Kanyuru et des villages Kawa et Mouloulou dans le groupement des Kibabi. Cette recrudescence des violences provoque un déplacement massif des populations vers Rubaya et Ngungu.
Le calme est progressivement revenu ce lundi dans la cité des Kavumu au sud Kivu après une journée entièrement paralysée la veille. Ce matin, les transports ont repris, les écoles ont rouvert, mais la population reste profondément secouée par les violences des dimanches. Car la veille encore, la situation était tout autre. Des échanges de tirs entre les Wazalendo et les combattants de l'AFC M23 ont fait 4 morts dans la ville. Terrés chez eux pendant des heures, les habitants ont vécu une journée de peur et d'incertitude. L'un d'eux, qui a souhaité garder l'anonymat, raconte.
Il est vrai que depuis 5h45 à Kavumu, nous avons entendu des coups de balles. C'était entre les Wazalendo et les militaires de l'AFC M23. Normalement, toute la journée, nous avons été terrés à la maison. Il n'y a pas eu de fidèles qui se sont dirigés à l'église, au marché, au parking. Rien n'a fonctionné. Mais c'est juste vers 12h que le calme est revenu. Le calme est revenu et jusqu'à 7h, il n'y a pas de problème. Avant que les éléments oasalènes ne se retirent et se sont retranchés, je ne sais pas jusqu'où. Dieu nous fait grâce, on est là.
Kavumu est un point stratégique du Sud Kivu. La cité abrite notamment l'aéroport du même nom. Coup de sifflet final à Lusambo. Dans la province du Sankoro, l'opération de réception des dossiers pour le poste du gouverneur et vice-gouverneur s'est officiellement clôturée ce lundi. À 16h précises, le bureau de réception et de traitement des candidatures du secrétariat provincial de la CENI a baissé ses rideaux, enregistrant au total 11 dossiers, dont 5 portés par des femmes, selon le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante à Lusambo. Les détails et les enjeux à suivre avec Esther Ndalafina.
Au total, 10 dossiers ont été enregistrés. Parmi elles, 3 femmes, dont une ancienne ministre du genre, famille et enfants. 2 anciens gouverneurs figurent également sur la liste. Une présence qui alimente déjà les débats sur ce qu'ils comptent proposer de nouveau après leur précédent mandat. 4 députés provinciaux ont déposé également leur dossier, l'un pour le poste de gouverneur titulaire et 3 autres pour celui de vice-gouverneur. La suite du processus électoral prévoit des ajustements possible, ajout, retrait ou substitution des dossiers avant la publication le 4 mars prochain de la liste provisoire des candidats. Initialement prévue le 24 mars, l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankoro se tiendra finalement le 7 avril prochain selon le calendrier réaménagé de la CENI. Au-delà des chiffres, cette échéance électorale cristallise les enjeux politiques locaux, retour d'anciens dirigeants, émergence de nouvelles figures et participation féminine encore limitée mais symbolique. Les députés provinciaux auront la responsabilité de trancher sur l'avenir de la gouvernance dans une province où les atteintes citoyennes demeurent fortes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans l'actualité économique, une décision qui pourrait peser lourd. La Banque centrale du Congo passe à l'offensive. À Kinshasa, vendredi 20 février, le gouverneur de la BCC a signé un contrat stratégique avec l'entreprise DRC Gold Mining pour renforcer leurs réserves nationales en or monétaire. Un accord présenté comme un véritable tournant dans la recherche de stabilité macroéconomique et de la souveraineté monétaire pour André Wameso. C'est une avancée déterminante, diversifier leurs réserves de change, se protéger contre l'inflation, absorber les chocs géologiques et limiter les risques liés aux devises fiduciaires. Il le répète, la BCC veut devenir le principal acheteur de l'or artisanal afin que le trésor congolais participe directement au renforcement de la solidité financière du pays. Les explications recueillies par Blaise Ndonga Lamayanda.
La Banque centrale du Congo a depuis quelques mois repris les réflexions sur la constitution des réserves en or monétaire et nous nous sommes rapprochés naturellement de l'entreprise nationale, donc qui appartient à 100% à l'État congolais, qui dans ses activités-là, notamment avec de l'or artisanal, pour voir dans quelle mesure nos orpailleurs peuvent profiter par leur travail qui doit être évidemment encadré grâce à DRC Gold Trading et que nos orpailleurs, c'est-à-dire nos citoyens congolais, contribuent à l'augmentation de nos réserves en or monétaire et qu'ils contribuent eux-mêmes en tant que citoyens à la stabilité monétaire et finalement la stabilité financière de notre pays. Et c'est comme ça qu'avec tout ce qui se passe dans ce secteur, la Banque centrale a voulu se positionner comme le principal off-taker de l'or produit par nos creuseurs artisanaux au travers de la société DRC Gold Trading.
Ce contrat avec DRC Gold Mining, entreprise congolaise détenue majoritairement par l'État, a été paraffé en présence de la ministre du portefeuille, Julie Chikou. dans le secteur de l'éducation. Une décision qui pourrait bien changer la donne. Le gouvernement accélère la digitalisation de l'organisation de l'examen d'état en RDC. À Kinshasa, du 23 au 26 février, se tient un atelier consacré à la modernisation et à l'optimisation de la gestion des données de cette preuve nationale. Selon le vice-ministre de l'éducation nationale, ce forum s'inscrit pleinement dans la mise en œuvre du plan quinquennal 2024-2029 du système éducatif, un plan qui fait de l'intégration des technologies, de l'information et de la communication un axe majeur des réformes. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'inspecteur général à l'éducation souligne que cet atelier traduit l'engagement continu du gouvernement congolais à améliorer l'organisation des épreuves certificatives nationales, notamment l'examen d'État qui consacre la fin du cycle secondaire en RDC. Hubert Kimboza indique que la modernisation de la gestion des données de l'examen d'État vise à réduire les délais de traitement et de publication des résultats. Il ajoute que cette approche permettra également de minimiser les erreurs humaines et renforcer la traçabilité et la sécurité des informations tout en améliorant la coordination entre les différentes instances impliquées dans la gestion de l'examen d'État. De son côté, le vice-ministre de l'Éducation nationale estime que la digitalisation de l'examen d'État représente un levier incontournable pour garantir la transparence, la fiabilité et la rapidité dans les traitements des données. Léo Kazadi.
Ces efforts témoignent de la volonté de l'administration
de renforcer l'efficacité de l'organisation de l'examen d'État et des autres évaluations certificatives dans notre pays.
Ce forum de trois jours réunit les différents acteurs qui prennent part dans la gestion des épreuves certificatives à travers le pays, notamment les inspecteurs principaux provinciaux, les directeurs de provinces éducationnelles, ainsi que d'autres responsables techniques de ces secteurs.
Actualité internationale.
Au Mexique, face à la flambée de violence qui s'écoule l'ouest du pays, les autorités ont déployé 2500 soldats supplémentaires, a annoncé ce lundi le ministre de la Défense Ricardo Trevilla. Jalisco, bastion du redouté cartel Jalisco Nueva Renario, comptait déjà quelques 7000 militaires. Les dispositifs sont donc renforcés après l'opération menée dimanche au cours de laquelle El Mancho, figure emblématique du narcotrafic mexicain, a été tué. De son côté, la présidente Claudia Tenu a précisé en conférence de presse qu'aucune force américaine n'a participé directement à l'opération, même si les échanges d'informations ont bien eu lieu avec Washington.
L'invité.
La multiplication des groupes armés dans les territoires de Fizi laisse une empreinte profonde et dévastatrice dans cette partie sud du Sud Kivu. Faune et flore sont mises en mal, détruites au fil des jours par ces groupes qui exploitent l'environnement pour assurer leur survie. L'administrateur du territoire, Sami Kalonji Badibonga, dresse un tableau sombre de la situation environnementale dans sa juridiction. Il est notre invité ce soir. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur l'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Aujourd'hui, le territoire de Fizi renferme-t-il encore la même fraîcheur qu'on y a connue il y a quelques années?
Pendant plusieurs années, le territoire de Fizi, c'est un territoire martyr, un territoire sinistré. C'est depuis 1964 que ce territoire a connu plusieurs guerres qui ont retardé son développement et mis à mal le décollage socio-économique de ce beau territoire. Voilà qu'avec ces différentes guerres, Fizi a connu le pillage de ses ressources naturelles et aussi la destruction de sa faune et flore. Avec la prise de Bukavu, la prise de la ville d'Uvira, le territoire de Fizi a connu plusieurs difficultés socio-économiques, voire même environnementales et qui ont négativement impacté l'écosystème de ces territoires.
À quel degré la présence de groupes armés et de combats à répétition impacte-t-il l'environnement dans les territoires de Fizi?
Vous savez qu'à Fizi, nous avons la réserve d'Enganja. Nous avons aussi la forêt de Mabondo, communément appelée la forêt Ewabora, dans le secteur de Lulenge. Dans cette forêt, nous avons plusieurs groupes armés, notamment le Red de Tabara, le FNL de Zabampema, qui vivent et exploitent de l'or, coupent le bois rouge, et aussi les autres bois pour la fabrication de braises. Cette situation a un impact négatif sur l'écosystème, avec la dégradation de l'environnement. avec la destruction de l'écosystème, l'abattage abusif des arbres sur toute l'étendue du territoire de Fizi. Nous avons connu plusieurs catastrophes naturelles, notamment la plus grande catastrophe naturelle de Kassaba, où plusieurs victimes avaient été ensevelies dans la boue suite au glissement d'un grand morceau de terre à Kassaba. Nous avons enterré plus de 12 enfants d'une même famille à Kimino, suite aussi à l'écoulement des morceaux de terre près d'une école conventionnelle catholique en Kelecha. Nous avons connu les vents violents qui ont emporté des maisons à Mukera, à Kananda, voire même à Fizi centre. Nous avons connu la crue de rivière sur le littoral du lac Tanganyika, précisément à Kazimia, où les maisons avaient été emportées et des personnes ensevelies, des champs détruits par cette situation. Et aussi pour les gens qui traversent la rivière Mutambala vers le chef-lieu du secteur de Mutambala à Malinde, sur le pont, la rivière est en train de se rétrécir, parce que quand vous voyez la rivière à l'époque, c'était une grande rivière. Pour le moment, la rivière est en train de devenir beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce qu'en amont de cette rivière, il y a une exploitation. Pendant cette période de guerre, certains groupes armés trouvent une occasion d'exploiter le bois rouge le plus recherché, abattage abusif des arbres pour fabriquer des braises, commencer aussi à exploiter de l'or. Quand ils trouvent qu'un espace est occupé par un grand gisement d'or, ils sont obligés d'amener des machines qui doivent leur permettre d'abattre les arbres pour arriver à exploiter facilement de l'or dans notre territoire de Fizi.
Quelle voie de sortie serait-elle envisageable pour que Fizi recouvre encore aujourd'hui la plénitude de son écosystème?
L'écosystème du Toto de Fizi est en danger. La biodiversité est détruite. Fizi était connu pour sa faune et sa flore très riche. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Fizi, la faune n'existe pas parce que les animaux que nous avions à l'époque qui faisaient la fierté du territoire de Fizi, notamment l'hyène, les éléphants, n'existent plus parce qu'ils ne trouvent pas leur habitat naturel et qui est les arbres et les herbes. Toute cette forêt est détruite par les groupes armés. Voilà, aujourd'hui, les animaux n'existent pas à Fizi. Et ceux qui existent vont plus loin dans les territoires voisins où ils peuvent facilement trouver la bonne herbe pour leur alimentation. Nous avons aussi la flore où on pouvait trouver de belles fleurs, des arbres médicinaux, mais pour le moment, ça n'existe pas.
Sami Badibanga, merci.
Merci à Sami Kalonji Badibanga, administrateur du territoire de Fizi, d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir apporté cet éclairage sur la situation environnementale dans la région. Un entretien réalisé par Jean Kassami. C'était votre journal des 18h sur Radio Capi et la Radio de la Paix. Merci d'avoir suivi avec nous une information fiable, vérifiée, complète au service de tous. Et pour aller plus loin, n'oubliez pas, toutes nos plateformes vous offrent des contenus plus détaillés, plus inclusifs, avec des analyses approfondies, des reportages enrichis et des informations toujours mises à jour. Continuez de vous informer en confiance avec Radio Capi. Très bonne soirée en notre compagnie.